30. 20h22. Julot pestait contre sa stupidité. Il se revoyait admirer à la brigade ce poster de l'étang de Vacarès, rêver aux flamants roses de Camargue et laisser monter l'envie de quitter la canicule de la ville pour aller admirer les oiseaux migrateurs. Une demi-heure plus tard, le voilà installé sur un banc du parc naturel, avec vue splendide sur l'étang. Le reflet rose des échassiers dans l'eau stagnante composait une sublime toile impressionniste, mais il avait vite déchanté. La nuit tombante et les eaux stagnantes avaient également attiré des milliers de moustiques. Malgré la chaleur, Julot avait dû enfiler un pull à manches longues et une capuche. La principale préoccupation des insectes ne semblait pourtant pas de lui sucer le sang, mais de surfer sur Internet. Dès qu'il avait allumé sa tablette, les moustiques, papillons de nuit et autres lucioles s'étaient précipités vers elle. Julot avait beau les repousser d'un revers de manche, ils revenaient dès qu'il cessait de s'agiter, voltigeant autour de ce nouveau halo de lumière comme autour d'une ampoule allumée dans la nuit, en moins brûlante pour leurs ailes et plate comme une piste d'atterrissage idéale. Julot maudissait l'inventeur de l'écran tactile qui avait dû le concevoir dans son laboratoire climatisé sans penser à cette simple évidence. L'écran ne faisait pas la différence entre un doigt et une patte de mouche. Depuis une heure, Julot se battait contre des milliers d'ennemis invisibles et farceurs. Il tentait d'écrire des phrases sur son écran et les insectes de nuit s'amusaient à ajouter des lettres, en supprimer d'autres, à cliquer sur les fenêtres et dérouler des menus au hasard. Il tenta malgré tout de faire abstraction de l'essaim qui bourdonnait autour de lui et de se concentrer sur l'enquête. Pétard venait de lui répondre. Il acceptait le rendez-vous demain à la mosquée Al-Isla, fixée par Mohamed Toufik, le professeur d'histoire africaine qui leur parlerait de ces fameux koris, les coquillages des Maldives sculptés sur les murs des banques africaines. Pétard avait juste précisé, pour la forme, c'était sans doute sa façon de le remercier, qu'il n'aurait pas le temps de se laisser pousser la barbe avant demain matin. Lorsque Julot avait reçu la réponse de son commandant, il surfait sur le site de Vogelzug. Ce nom étrange à consonance allemande prenait finalement tout son sens. Les oiseaux migrateurs, les seuls voyageurs sans frontières sur la planète. L'association Vogelzug possédait des ramifications partout dans le bassin méditerranéen. Son champ d'action était large. Logement pour les réfugiés, recherche d'emploi, aide juridique, prévention, lobbying auprès des institutions. Vogelzug pesait plusieurs centaines de salariés et s'était imposé comme un partenaire incontournable des autorités. D'ailleurs, c'est sous son égide que se tenait dans 2 jours, à Marseille, le grand symposium de Frontex, l'agence européenne des frontières. Julot avait beau essayer de lire entre les lignes, il avait du mal à évaluer à quelle place exacte se positionnait l'association. Caution pratique pour les États, leur permettant d'amortir à moindre coût social leur politique migratoire malthusienne, ou réel poil à gratter indépendant et militant, à l'instar des Amnesty International et autres Human Rights Watch. Il s'attarda un peu sur l'onglet présentant le président fondateur de l'association, Jourdain Blanc-Martin. Le régional de l'étape, enfant de Port-de-Bouc, issu du quartier des Aigues Douces, c'est tout ce que précisaient les 5 lignes de CV. Le président ne semblait pas du genre à cultiver le culte de la personnalité. Les moustiques s'étaient un peu calmés. Peut-être que les grenouilles en avaient gobé la moitié. Elles coassaient à en réveiller en sursaut les échassiers. Le lieutenant Flores quitta le site de Vogelzug pour la page Facebook de Bambi 13. Il fit défiler les pages, bien aidé par une sorte de hanneton bourdonnant obsédé par le bikini de la séduisante pseudo-étudiante. Bambi 13 était-elle Bambi mâle? Avant de quitter la brigade, Julot avait tenté de partager ses doutes avec son commandant. Une fille prénommée Bambi, la sœur de l'apprenti passeur arrêté ce midi, habitait Port-de-Bouc, quartier des Aigues Douces.
Ça fait beaucoup de coïncidences, non, patron?
On verra ça demain, gamin,
avait répliqué Pétard en enfilant son blouson pour aller rejoindre sa coiffeuse.
Ce ne sera pas difficile de récupérer des photos et de voir si la sœur de notre Apollon de bronze correspond à ta petite chérie. Et d'ailleurs, tel que je te connais, tu vas y passer la nuit.
Pas difficile, marmonna pour lui-même Julot entre 2 coassements. Pas difficile. Il n'avait déniché aucune photographie de Bambi mâle sur la toile, et même s'il en trouvait demain, il n'était pas convaincu qu'une certitude se dégagerait compte tenu de l'image floue de la caméra de surveillance dont il disposait. Sur la page Facebook de Bambi 13, Julo continuait de sauter de Bodrum à Saint-Domingue, de N'Gapali à Lanzarote, sans réellement savoir pourquoi, puisque la belle inconnue ne montrait jamais son visage. Parce qu'il était amoureux, aurait ricané Pétard. Parce qu'un détail le taraudait, se justifiait Julo. Le profil Facebook de Bambi 13 se situait aux antipodes du milieu social dans lequel devait évoluer Bambi mâle. Le quartier des Aigues Douces était classé zone sensible. Layli Mal était une mère célibataire qui, d'après son fils, enchaînait les boulots précaires. Comment cette gamine de banlieue aurait-elle pu se métamorphoser en militante globe-trotteuse, sautant d'hôtel en hôtel, tous plus luxueux les uns que les autres? Après tout, raisonnait Julo, ce simple prénom, Bambi, ne prouvait rien. La véritable meurtrière avait pu prendre ce pseudo pour jeter les soupçons sur une fille de Port-de-Bouc, se doutant que les enquêteurs feraient le rapprochement. D'ailleurs, à bien y réfléchir, pourquoi la meurtrière aurait-elle utilisé son véritable prénom comme pseudo, en modifiant d'ailleurs son orthographe? Cela n'avait aucun sens. « Jolie brune fille, n'est-ce pas ?» se surprit à demander Julo dans le parc désert, sans savoir s'il s'adressait aux hannetons qui voltigeaient toujours dans les parages, aux moustiques qui avaient échappé aux grenouilles ou aux flamants roses qui revenaient des tropiques. Mâle. Alpha. Bambi. Layli. Le lieutenant Flores avait vérifié sur Internet. Les noms et prénoms de cette famille étaient typiquement peuls. Il se souvenait que le professeur Waknin, nouvelle étrange coïncidence, lui avait parlé de cette ethnie ce matin, à propos du sang. Il sortit de sa poche le tableau des impossibilités de filiation sanguine, le déplia tout en se remémorant les propos de l'hématologue. Contrairement aux autres ethnies africaines, les Peuls sont surreprésentés dans le groupe A, qui représente lui-même 40% de l'humanité. Un tiers rien que pour le A+. Le groupe sanguin de Bambi, de Layli, d'Alpha, était donc vraisemblablement A. Ça n'avançait à rien, pensa-t-il en laissant glisser son doigt sur la ligne. À rien pour l'instant. Il était pourtant persuadé que tout avait un lien.